Bonsoir donc à toutes et à tous. C'est donc quelque chose qui est annoncé comme pluridisciplinaire. Ça tombe bien, ce que je vais présenter fait appel à des disciplines très très variées et pas mal de disciplines auxquelles je n'appartiens pas. Moi, je suis éthologue de formation, spécialiste du comportement animal et plus spécifiquement des insectes sociaux et encore plus spécifiquement, non pas des abeilles, mais des fourmis. Je travaille sur le comportement et l'écologie comportementale des fourmis, les relations des fourmis avec les plantes, les relations des fourmis entre elles, etc., et quasi exclusivement sous les tropiques. Je suis plus écologue maintenant qu'éthologue. J'ai eu une formation d'éthologue au départ, mais je fais beaucoup plus d'écologie. Et donc, je travaille sur les interactions entre les êtres vivants et toujours à travers les fourmis comme axe directeur. Sachant que dans ma jeunesse, j'ai aussi touché à des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence artificielle, les fourmis comme modèle de résolution collective de problèmes et comme modèle de robotique sociale. Je vous parle de ça de début des années 90, toute fin des années 80. Donc c'était vraiment une période précurseur. Rassurez-vous, je ne vous parle. J'ai mis robot pollinisateur, je finirai là-dessus, mais c'est ni un cours de robotique. Ce sera juste évoqué pour la fin. Je parlerai par contre beaucoup plus des chasseurs de miel. Alors. Ce dont je vais parler aujourd'hui, comme les relations entre l'homme et l'abeille pourraient faire l'objet d'une encyclopédie, pas d'un livre, c'est colossal comme thématique, j'ai été obligé de restreindre. Je me suis restreint à quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire et même d'une préhistoire, vous allez voir, d'une histoire évolutive des pratiques de l'homme, des interactions de l'homme et de l'abeille. Je me suis focalisé sur les pratiques, ce qui veut dire que je ne parlerai pas de tous les aspects, légendes, littérature, de tous ces aspects-là. On va vraiment s'intéresser aux interactions de l'homme et l'abeille, comment ça s'est construit et comment, en fait, c'est la thèse que je voudrais défendre ici, qui est un petit peu osée, mais comment, d'une certaine façon, c'était quelque chose d'inéluctable. Comment nos deux espèces sociales, enfin les espèces sociales que sont Homo sapiens et aussi les préhumains et ensuite donc Homo sapiens, toute la lignée humaine, et les abeilles, mais au sens pas seulement Apis mellifera, l'abeille mellifère, l'abeille domestique, mais comment est-ce que, en quelque sorte, on était fait pour se rencontrer et s'entendre et peut-être plus très bien s'entendre en ce moment. Alors, tout d'abord, les abeilles. Je pense que le public est assez hétérogène, donc je ne vais pas faire un cours de biologie très précise, et ce que je vais dire, ce n'est pas quelque chose qui va décrire les abeilles en termes de taxonomie. Simplement, les abeilles sont des insectes, tout le monde le sait, hyménoptères, que je caractériserai ici par le fait que leur régime alimentaire est lié aux fleurs. C'est-à-dire que les abeilles sont des insectes qui, au cours des millions d'années, de la centaine de millions d'années de leur évolution, ont coévolué avec les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs sont apparues un peu plus de 100 millions d'années, mais elles ont explosé il y a une centaine de millions d'années. Et en même temps, un certain nombre d'insectes, dont les abeilles, se sont modifiés en coévolution avec les plantes à fleurs. Ce sont des petits insectes qui exploitent pour se nourrir le nectar et le pollen des fleurs. Parmi les abeilles, on a à peu près à l'heure actuelle une vingtaine de milliers d'espèces. La plupart sont des espèces solitaires. Il y a des espèces sociales et c'est celle-ci dont on parlera aujourd'hui, des espèces d'abeilles sociales. Donc ces espèces d'abeilles sociales, comme toutes les abeilles, exploitent le nectar, le pollen, s'en nourrissent, elles en nourrissent aussi leur couvain, leurs larves. C'est pour ça qu'elles le stockent, c'est pour ça qu'elles stockent du pollen et qu'elles stockent quelque chose du nectar sous une forme particulière qui va donner le miel. Alors chez l'abeille mellifère, c'est quelque chose de bien connu, chez d'autres abeilles sociales, c'est un peu moins connu, mais sachez que il n'y a pas que l'abeille mellifère Apis mellifera, il y a d'autres abeilles du genre Apis, notamment les grandes abeilles asiatiques comme Apis dorsata, que j'ai figuré ici, qui a des nids qui sont des nids à l'air libre, qui ne sont pas dans des cavités. Les bourdons sont aussi des abeilles particulières, hein, des abeilles adaptées au froid, avec des sociétés beaucoup plus petites, hein, qui ne font pas un miel véritable, mais qui font une espèce de mélange de miel et de pollen. Et moins connues en général, mais très connues sous les tropiques, hein, qu'il s'agisse des anciens tropiques ou des néotropiques, les mélipones, les abeilles dépourvues d'aiguillons ou dépourvues de dards. Alors, j'en profite pour faire une petite publicité. Je m'occupe d'une revue qui s'appelle la revue Espèces. Et si vous voulez en savoir plus sur les abeilles, leur évolution, je vous renvoie à un numéro avec un dossier spécial sur l'abeille de cette revue Espèces. Alors, d'où viennent les relations entre l'abeille et l'homme? C'est évident, tout le monde le sait, hein, les abeilles, elles nous fournissent quoi? Elles nous fournissent le miel, elles nous fournissent la cire et d'autres choses. Tout d'abord, le miel. Je vous ai dit, le miel est le résultat de la transformation du nectar, en fait des nectars des fleurs. Les abeilles vont butiner, récoltent des nectars sur des fleurs différentes, surtout quand on a affaire à une société d'abeilles comme l'abeille mellifère. Elles vont visiter des fleurs très très différentes, ramener à la ruche des nectars très 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 différents. Elles vont régurgiter ce nectar, le prédigérer, le ventiler et progressivement, en le déshydratant, ces nectars, sous l'action de certaines enzymes, va se transformer en miel. Et ce miel va être stocké, hein, tout le monde sait ça, et ça va servir à la nourriture à la fois des abeilles et aussi des larves. Ce miel, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans le monde naturel. On n'a pas assez conscience de ça. On n'a pas assez conscience du fait, et j'insiste là-dessus, que c'est un aliment quasi unique dans la nature. En fait, les abeilles, elles jouent le rôle de concentration de quelque chose qu'on va trouver partout. Le nectar des fleurs, on va le trouver partout pendant la belle saison, ou sous les tropiques, on va le trouver partout sur les fleurs. Il est très dilué, les abeilles vont le concentrer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont le concentrer, elles vont en faire un sucre qui est un sucre qui est assimilable tout de suite, qui énergétiquement est très 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 fort, très énergétique. En quelque sorte, c'est quelque chose de très très bon, par exemple pour le cerveau des humains, hein, quand le cerveau consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de sucre, et le miel est une alimentation extraordinaire pour ça. Cette alimentation donc très particulière, en plus à la particularité qu'elle est quasi imputrescible, hein, elle est produite quand il s'agit d'abeilles sociales en quantité relativement importante. C'est quelque chose d'assez unique, cette substance, le miel, dans la nature. Hein. On ne connaît pas d'équivalent. Une substance qui cumule tout ça, imputrescible, très très riche énergétiquement, et en quantité relativement importante, concentrée en un endroit. Donc c'est excessivement convoité. C'est excessivement convoité par un grand nombre d'espèces animales, mais qui, dans le cas des abeilles domestiques à aiguillons, ont du mal à y accéder. Hein, ce sont des ressources excessivement convoitées et excessivement bien protégées. Vous savez que les abeilles sont pourvues d'un aiguillon, ont un venin qui est un venin très particulier parce que c'est un venin qui surtout fait très mal au moment de la piquûre. Il est douloureux, donc ça décourage, hein, les animaux qui viendraient au contact. Et la défense n'est pas seulement individuelle, la défense est aussi collective. Il y a un certain nombre de mécanismes de défense collective. Je citerai très très brièvement l'existence d'une phéromone d'alarme qui fait qu'en même temps qu'une abeille pique, elle émet une phéromone d'alarme, une substance d'alarme qui va attirer les autres abeilles. Et quand vous êtes piqué par une abeille à proximité d'une ruche, il y a de fortes chances pour que vous soyez piqué par de nombreuses abeilles qui sont attirées par cette phéromone. Là, quelque chose d'un peu moins facile à mettre en relation, le fait aussi que les abeilles, je parle cette fois-ci de l'abeille domestique, l'abeille mellifère, ont la capacité de faire leur nid dans des cavités et ont un mécanisme de sélection des sites de nidification très particulier. Je passe à la suivante. En fait, les abeilles trouvent un site de nidification pour leurs essaims d'une façon particulière, en utilisant quelque chose que l'on connaît très bien, la danse des abeilles, mais pas seulement. Cette danse des abeilles, c'est quelque chose de très bien connu. C'est quelque chose que tout le grand public connaît, mais on connaît cette danse des abeilles comme étant le support à la communication pour aller chercher de la nourriture. Une abeille communique à une autre à la localisation d'une source de nourriture. Mais en général, les gens ne savent pas bien que ça sert aussi à l'essaim, à des ouvrières de l'essaim, pour recruter des congénères et pour trouver un nouveau site de nidification. Or, les travaux les plus récents laissent entendre que ça, chez l'abeille, Ce comportement qui consiste à faire une danse a d'abord été utilisé dans le contexte de la recherche du site de nidification et non pas dans le contexte de la recherche alimentaire. La recherche alimentaire, les insectes sociaux savent faire, ils n'ont pas besoin de danse. C'est-à-dire que les ancêtres des abeilles, et plein d'abeilles ne font pas de la danse, et sont capables de trouver de la nourriture. Elles ont plein de mécanismes pour trouver des sites où il y a de la nourriture. Pourquoi un mécanisme aussi compliqué? Eh bien, la réponse, c'est que le mécanisme si compliqué, il n'a pas été mis au point pour trouver de la nourriture, mais pour trouver un site de nidification, un endroit bien caché, bien à l'abri. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution des abeilles domestiques, des abeilles mellifères, il y a eu sans doute eu des forces, des pressions de sélection naturelle qui sont allées dans le sens de favoriser de tels mécanismes. Parce que c'est très important pour l'abeille de se protéger contre les intempéries et de se protéger aussi contre les prédateurs parce que l'abeille recèle en quantité une ressource comme le miel, qui est une ressource très très intéressante. Alors, l'abeille produit aussi d'autres choses, hein, pas seulement le miel, mais à l'origine, on peut penser que ce qui fait que les ruches sont attractives, c'est le miel, et c'est dans un second temps que l'homme a exploité les abeilles pour autre chose, hein, notamment la cire, qui est utilisée par exemple dans les techniques à la cire perdue, qui est utilisée pour toutes les techniques d'éclairage, hein, voilà, dans différentes civilisations, liées à la religion chrétienne, musulmane, etc. Mais il y a d'autres produits aussi de la ruche, hein, entre guillemets. Par exemple, j'ai mis le couvain, les larves et les nymphes, hein, qui sont de la nourriture, des protéines. C'est-à-dire que les animaux qui vont être capables d'attaquer une ruche pour se nourrir du miel se nourrissent aussi du couvain. Et sans doute que les ancêtres humains se nourrissaient aussi du couvain. Moi-même, j'ai mangé du couvain d'abeille. C'est pas mauvais. Voilà. Et d'autres ressources, le pollen, la propolis, la gelée royale, c'est plus anecdotique par rapport à ce qui m'intéresse. Pardon. Alors, l'être humain est un, donc peut être considéré, on pense souvent que c'est un prédateur d'abeilles, mais c'est plus un kleptoparasite, parce que lui, il s'intéresse surtout au miel, donc il vient voler quelque chose à l'abeille, donc on peut plus considérer en biologie comme un kleptoparasite. Donc parmi les prédateurs et les kleptoparasites des abeilles, notamment des grandes abeilles, comme des abeilles qui ont des grandes sociétés, hein, comme l'abeille mellifère, le nombre de prédateurs est assez limité, encore une fois, parce que, et de kleptoparasites, je vous l'ai dit, elles se défendent bien. Donc, il y a quelques exemples. Hein. J'ai mis la Bondrée apivore, tout simplement, parce qu'elle s'appelle Pernis apivorus, Bondrée apivore, mais en fait, elle se nourrit plus de petits nids de guêpes, etc., d'insectes. Elle n'attaque pas véritablement des grosses ruches, elle peut le faire, mais c'est anecdotique par rapport à son régime alimentaire. Par contre, le ratel du Cap, hein, Mellivora encore, hein, capensis, c'est une espèce de blaireau, hein, d'Afrique du Sud, enfin du sud de l'Afrique plutôt, qui effectivement, lui, est capable de s'attaquer à des ruches. Il craint pas trop les piqûres, il est capable, voilà, d'accéder au miel, au couvain. Et l'ours, bien entendu, qui est bien connu comme étant très attiré par le miel. Mais plus intéressant pour nous, parmi ces prédateurs et ces kleptoparasites des abeilles, qu'il s'agisse d'abeilles sans dard ou aussi d'abeilles pourvues de dard, comme l'abeille mellifère, eh bien, il y a les grands singes. Tous les grands singes, nous en faisons partie, hein, genre homo, genre pongo, orang-outan, genre gorilla, le gorille, genre paon, hein, les chimpanzés, eh bien, tous les grands singes adorent le miel. Et s'ils peuvent se procurer du miel, ils vont y aller, hein, ils vont essayer d'en avoir. Quand il s'agit d'abeilles de type mellipone sans dard, ce n'est pas très compliqué, hein, puisqu'elles ne piquent pas. Ce sont des petites sociétés souvent et ils ne se gênent pas pour le faire. D'ailleurs, d'autres animaux le font, hein, c'est surprenant. Il y a eu des études sur des singes pour étudier la façon dont les singes en Afrique se nourrissaient de miel de mellipone et on s'est rendu compte que les éléphants aussi allaient chercher du miel de mellipone de temps en temps. Par contre, les éléphants, on y reviendra, ont une peur bleue des abeilles mellifères. Le chimpanzé commun est sans doute celui qui a les techniques les plus élaborées pour aller chercher du miel. Les chimpanzés, on le sait maintenant, on le sait depuis les années 1900, fin des années 60, hein, avec Jane Van Levick-Doudhol, les chimpanzés sont capables d'utiliser des outils pour faire différentes choses, par exemple pour pêcher des fourmis, des termites, pour casser des noix, et aussi pour aller chercher du miel, que ce soit du miel dans des petits nids de mellipones, ou aussi que ce soit du miel dans des nids suspendus, des grands nids de l'abeille mellifère, qui sont dans des anfractuosités dans les arbres. Et pour cela, ils utilisent des outils. Non seulement ils utilisent des outils, mais ils utilisent un kit d'outils. Ce sont les travaux de Christopher Bosch, un Suisse qui a travaillé là-dessus. Il travaille dans la forêt de Lamto, en Côte d'Ivoire, depuis plus de 30 ans maintenant, 35 ans. Et il a montré que les chimpanzés étaient capables d'aller chercher du miel en utilisant des outils, un kit d'outils, qui sont des outils qui sont fabriqués sur place, cassés. Et on utilise des outils différents pour des fonctions différentes. Il y en a un, ça va être pour perforer, un autre, ça va être pour récupérer le miel, etc. Plusieurs chimpanzés coopèrent et l'utilisation des outils va se faire d'une façon séquentielle. Donc, avec quelque chose qui est véritablement prémédité. Les singes ont fabriqué les outils à l'avance, viennent au pied de l'arbre, grimpent dans l'arbre avec les outils, etc. Quelque chose donc qui est de l'ordre d'un usage d'outils et quelque chose qui est de l'ordre d'une culture. Ça fait maintenant quelques années qu'on n'a plus peur d'utiliser le terme de culture pour les animaux. Culture animale en sciences humaines, c'était quelque chose qui semblait de l'ordre de l'oxymore. On met ensemble le terme de culture et animal, donc culture et nature, ça semblait quelque chose de paradoxal. Mais en éthologie, on a une définition assez simple des cultures animales. Une culture animale, c'est quelque chose qui est commun à toute une population chez une espèce donnée et qui est lié à un apprentissage social. Alors, venons-en à l'homme quand même, c'est de l'homme dont je veux parler. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire évolutive et de l'espèce humaine? J'ai mis un graphique ici dans lequel il y a l'ensemble de ce qu'on appelle les hominidés, en jaune, là, vous avez les hominidés qui regroupent encore une fois les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et homo. Ces hominidés, descendre un peu dans la classification, et si on s'imite aux hominini. Les hominini, ce sont nous, les homos, à l'heure actuelle, les homos et les pans, c'est-à-dire les chimpanzés, que ce soit chimpanzé bonobo ou chimpanzé commun. La séparation entre les deux espèces date environ d'il y a 8-9 millions d'années, peu importe exactement, c'est de cet ordre-là. Et évidemment, il y a là tout un arbre évolutif qui n'est pas figuré ici, qui correspond à la lignée humaine et à toute l'arborescence des différentes espèces qui se sont succédées. Alors, tous ces singes, ces grands singes, aiment le miel. Homo sapiens aime le miel. On sait que chez les chimpanzés, il y a des techniques assez élaborées pour aller chercher du miel, et on peut penser qu'il y a sans doute eu des techniques aussi pour aller chercher du miel. Mais qu'est-ce qu'on sait là-dessus? À vrai dire, pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose sur ces milliers d'années d'histoire évolutive humaine en relation avec les abeilles. Mais on peut, et ma thèse, c'est que on peut parier qu'il y a eu des relations très étroites avec les abeilles. Pourquoi? Les données sont rares. Et les seules données qu'on a, elles sont exclusivement très récentes. C'est des données du néolithique. Le néolithique, ça commence il y a 12 500 ans, grosso modo. Donc là, je vous parle de 8 millions et demi d'évolution. Et en fait, on a des données seulement qui datent de 10 000 ans, 12 000 ans, 15 000 ans, pas plus. Pourquoi on n'a rien trouvé? Soit il ne s'est rien passé, soit, on le sait, c'est que l'activité de collecte du miel, ça ne laisse pas beaucoup de traces. La chasse des grands gibiers, ça laisse des traces. Les outils pour la chasse, les traces sur les os, etc. Quand vous utilisez des bâtons pour aller chercher du miel dans les arbres, ça ne laisse pas beaucoup de traces sur le long terme, surtout quand vous êtes dans un milieu forestier tropical. Ça disparaît très rapidement. Donc on ne peut que spéculer. On ne peut que spéculer sur cette longue période. On peut dire la chose suivante, c'est qu'il y a eu une cohabitation entre les hominini qui sont nés en Afrique, toutes ces différentes espèces qui se sont succédées en Afrique, en savane, en forêt, ont cohabité avec les abeilles, que ce soit des types mélipones ou type apis, il y a une cohabitation évidente. On rappelle quelles sont les propriétés du miel, quelque chose d'unique, le fait que c'est une nourriture exceptionnelle. On sait que l'usage d'outils existe dans la lignée humaine, chez les australopithèques, etc. C'est-à-dire, on peut remonter l'usage d'outils en pierre, ceux qui laissent des traces à 3 millions, 3 millions et demi, etc., peu importe la précision, c'est bien au-delà des 15 000 ans, c'est quelque chose de beaucoup plus important comme panel temporel. On se doute que la culture existe dans la lignée humaine depuis très longtemps. La culture n'est pas apparue comme ça chez Homo sapiens et Xabocto. La maîtrise du feu, c'est quelque chose qui date de 400 000 ans, 500 000 ans. La maîtrise du feu, ça a été très important dans l'histoire de l'humanité. Ça a été très important pour la cuisson des aliments, hein, et ça a eu une importance énorme sur la transformation même des homo, de la lignée humaine, hein, puisque c'est une prédigestion, la cuisson des aliments. Mais aussi, c'est un mode de protection, mais aussi, là, le feu, c'est la fumée. Et la fumée, c'est le meilleur moyen d'avoir accès aux abeilles. Et donc, en fait, la lignée humaine a la maîtrise du feu depuis des centaines de milliers d'années. Et donc à la capacité à contrôler les abeilles depuis sans doute des centaines de milliers d'années. Tout simplement parce que la fumée, ça neutralise totalement les abeilles. Les abeilles, sans doute qu'elles ont coévolué avec les feux, là aussi, les feux de brousse, etc., qui fait que dès qu'elles perçoivent de la fumée, elles se gavent de miel et elles ne sont pas agressives. En fait, elles se sauvent en général. Et en plus, on sait que si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les populations actuelles de chasseurs de miel, je vais y revenir sur les chasseurs de miel, il y a d'autres techniques pour neutraliser les abeilles qui sont l'utilisation de certaines plantes. Et on peut très bien imaginer que nos ancêtres et les différentes espèces de la lignée humaine ont pu utiliser des plantes pour neutraliser les abeilles bien avant de maîtriser le feu. Tout ça est complètement spéculatif. Mais j'ai fait tout ce que j'ai dit au préalable, c'était bien pour que vous compreniez que même si on n'a pas de traces, la probabilité est quand même très forte qu'il y ait eu exploitation du miel et des abeilles pendant des centaines de milliers d'années. Qu'est-ce qu'on sait en réalité? Qu'est-ce qu'on sait de façon tangible? Je vous l'ai dit, hein, on ne sait pas grand-chose, à part un certain nombre d'indices, hein, qui datent du néolithique. Le plus ancien témoignage artistique de chasse au miel, hein, il est très connu, hein, c'est une représentation dans la grotte de l'araignée, hein, à côté de Valence, à Bicorp, le fameux homme de Bicorp, hein, daté environ de 8000 ans. Une représentation dans laquelle, alors homme, moi j'ai l'impression que c'est presque une silhouette féminine, hein, mais bon, ils écrivent toujours l'homme de. En tous les cas, un homo, un être humain qui porte un panier ou une calebasse, qui est près de quelque chose qui ressemble à une ruche, qui est agrippé à des lianes, apparemment des cordes. Autour de lui, il y a des abeilles. On verra des représentations de chasseurs de miel qui lui ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Des travaux très récents. Ces travaux sont de notre décennie, hein, je ne sais plus la date exacte, de 2005, je crois, publié dans Nature. Un travail qui s'est intéressé à étudier. Alors, le titre, c'est Exploitation de l'abeille par des fermiers néolithiques, voilà, de façon répandue, donc sur toute l'Europe. Vous avez la carte de l'Europe avec des points sur lesquels on a trouvé des poteries. Sur ces poteries, on a trouvé des traces de cire d'abeille. Environ 6000 fragments de poterie ont été analysés avec de la cire d'abeille. Sur cette carte, donc, vous avez les différents points. Sur le schéma en dessous, vous avez les dates avec la plus ancienne qui correspond à, en Turquie, Katayuyut, à peu près moins 7000, moins 6000 ans. Et la carte de droite, avec les différentes couleurs, montre en quelque sorte, sur ces 6000 fragments de poterie qui ont été étudiés, quels sont ceux qui ont de la cire d'abeille, avec elle. Donc quelle est la fréquence de trouver de la cire d'abeille sur l'Europe, sur des poteries trouvées en Europe entre moins 7000 et moins 2000 ans. Et vous voyez qu'il y a des foyers, hein, sur à peu près l'Allemagne, sur l'Autriche, sur Grèce-Turquie, etc. Tout ça nous dit quoi? Qu'il y a entre 6000 et 2000 ans, hein, une utilisation de la cire en grande abondance. Le titre, encore une fois, on parle de fermier néolithique. Quand on parle de néolithique, on parle d'agriculture. Ça ne veut pas dire ici que c'est une exploitation des abeilles de type agricole, de type apicole. Hein. Il y a forte chance pour qu'on en était encore, à ces époques, à de la collecte simple de miel, de la chasse de miel. Un autre article, là, c'est pareil, hein, de la décennie 2000, 2010 même, trouvé sur un reste de mâchoire en Slovénie d'un Homo sapiens qui a 6500 ans, de la cire d'abeille qui sert comme, eh bien, en quelque sorte, un plombage. Hein. Un plombage réalisé en cire d'abeille il y a 6500 ans. Donc, là encore, hein, une preuve que les humains à l'époque utilisaient la cire des abeilles et donc allaient chercher de la cire dans les ruches. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y avait de l'apiculture, simplement ils allaient chercher de la cire. Et encore une fois, hein, 6500 ans, ce n'est pas 200 000, ce n'est pas 300 000. Hein, ce sont des données très, très, très récentes. Alors, ce que l'on sait des chasseurs cueilleurs contemporains peut aussi nous donner beaucoup d'indications. Ici, il y a une carte, hein, une carte du monde dans laquelle il y a toutes les ethnies qui actuellement sont, selon les données de l'ethnologie, considérées comme étant des chasseurs-cueilleurs. Bon, il y a une définition très précise dans l'article. Eh bien, on voit que pratiquement toutes ces ethnies, à partir du moment où elles sont, où elles vivent à un endroit où il y a des abeilles, qu'il s'agisse d'abeilles sans dard ou d'abeilles de type apis avec dard, eh bien, toutes ces ethnies pratiquement exploitent les abeilles, exploitent du miel et vont le faire comme donc sur les deux photos ici. Donc là, on a un Hadza de Tanzanie, hein, qui va chercher donc dans un arbre de type baobab, hein, qui va avec une hache chercher du miel d'une abeille Apis mellifera. En dessous, vous avez, ce sont des photos assez célèbres, hein, j'ai mis là en réduit en bas à droite, c'est un gurung du Népal qui va, à l'aide de lianes, hein, il va escalader des falaises sur lesquelles il y a des nids de ces grandes abeilles, les Apis dorsata, qui sont des abeilles asiatiques qui font leur nid à l'air libre comme ça, mais qui sont suspendus, quasi inatteignables. Évidemment, l'être humain, lui, sait faire, hein, il construit des échafaudages et il va les chercher. Donc là, ça nous dit aussi que l'être humain, hein, quand il est chasseur-cueilleur, partout où il y a des abeilles, eh bien, il va chercher du miel. Et donc, c'est sans doute quelque chose qui est très ancien. Encore, pour aller dans le sens de cette idée que même si on n'a pas beaucoup de traces paléontologiques, paléoanthropologiques, des liens entre l'abeille et l'homme, un autre élément qui laisse penser que ces liens ont été continus. Alors, c'est une histoire, voilà, je vais la raconter de la façon suivante. Elle commence par un ouvrage qui est écrit au début du XVIIe siècle par un missionnaire portugais qui écrit un livre sur ce qu'il appelle l'Éthiopie, hein, mais qui en fait correspond au Mozambique. Ce missionnaire portugais était au Mozambique à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Fin du XVIe et début du XVIIe. Il écrit un ouvrage pour relater un petit peu ce qu'il a vu dans cette partie du monde qu'on appelle maintenant le Mozambique. Et il parle d'un oiseau que l'on connaît maintenant comme sous le nom de grand indicateur, hein, indicateur, selon les dires des villageois, est capable d'emmener les villageois à l'endroit où il y a des abeilles. Il les guide en quelque sorte, d'où le nom de ce grand indicateur. Il leur indique l'endroit où il y a des abeilles et donc les villageois récupèrent le nid d'abeilles avec leurs moyens à eux, en utilisant du feu, en utilisant des haches, etc. et donnent ensuite à ce grand indicateur une quote-part, car ce grand indicateur est un oiseau qui se nourrit de cire. Notre missionnaire portugais n'a pas été a priori témoin de cela, mais il a été témoin d'une chose: le même oiseau en question rentre régulièrement dans son église pour lui manger ses cierges, donc ce qui montre bien effectivement que cet oiseau très très bizarre est d'un des rares animaux qui est capable de digérer la cire, hein, la cire d'abeille, qui n'est pas quelque chose de facile à digérer. Or, cette histoire a été confirmée dans les années 80 par des études qui ont été réalisées au Kenya et encore qui ont montré la chose suivante, hein, qu'effectivement, les indicateurs étaient capables d'emmener donc des humains en direction de nids d'abeilles en poussant un cri d'appel. Ils faisaient venir à eux les humains, et ils attiraient l'attention des humains, et les humains donc les suivaient. Et ces oiseaux étaient capables d'indiquer la direction par leur trajet. C'est-à-dire que l'humain s'approchait, et l'oiseau avançait un peu plus en indiquant la direction, et l'humain se rapprochait, etc., jusqu'à 1, 2 km du village. De cette façon, l'oiseau indicateur véritablement indiquait la direction. Ce qui est un comportement très, très, très exceptionnel. En éthologie, on ne connaît pas beaucoup de cas où des animaux indiquent des directions. Vous connaissez tous l'adage le sage montre la lune, voilà, l'imbécile regarde le doigt. La plupart des animaux, lorsque l'on montre quelque chose, ne sont pas capables de comprendre cette indication. Il n'y a que quelques animaux qui sont capables de faire. Là, l'indicateur est capable d'exprimer un comportement qui consiste à faire des trajets qui sont des trajets qui emmènent et qui déterminent une direction. Ceci a été confirmé hein, par des travaux réalisés chez les Yao du Mozambique tout récemment hein, par une chercheuse anglaise qui s'appelle Claire Spottiswoode, qui a montré que c'est encore plus complexe que ça. C'est-à-dire que elle a montré que chez les Yao, dans leur culture et selon les villages, les villageois étaient capables d'appeler l'oiseau. L'oiseau arrivait et l'oiseau était capable de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les deux. Hein. C'est-à-dire l'oiseau est capable d'envoyer un signal qui fait venir l'homme, mais l'homme est capable d'envoyer un signal qui fait venir l'oiseau. Et en étudiant de plus près, elle s'est rendue compte que si on regarde au Mozambique, au Kenya, etc., les différentes ethnies qui ont encore, parce que c'était sans doute très répandu dans toute l'Afrique, la partie sud de l'Afrique, là où il y a des indicateurs, eh bien, chaque ethnie a une façon différente d'appeler l'indicateur, et l'indicateur, lui, peut envoyer un cri pour faire venir les villageois et les diriger. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que c'est quelque chose de sans doute très, très, très ancien. Hein. Parce que, alors pour l'instant, on ne sait pas comment ça fonctionne exactement, mais on pense qu'il y aurait une base génétique, c'est-à-dire que l'oiseau, génétiquement, saurait appeler les humains pour les faire venir, que la partie communication du côté des humains serait quelque chose de culturel chez les humains qui serait appris ensuite par les oiseaux à chaque endroit, c'est-à-dire à chaque endroit différent en Afrique, les oiseaux seraient capables de répondre à un signal différent des humains, mais il y aurait quand même une composante génétique dans la capacité de ces oiseaux à répondre, à émettre, pardon, un cri d'appel, et ça, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques milliers d'années. Donc, une des hypothèses, c'est quelque chose de très très ancien, c'est-à-dire qu'en Afrique, depuis très très longtemps, peut-être même avant Homo sapiens, avant qu'Homo sapiens soit Homo sapiens, il y avait ce type de relation symbiotique entre des hominini hein, et l'indicateur. Ce sont des spéculations, j'en suis d'accord, hein, mais tout un faisceau d'éléments qui laissent entendre que cette relation s'est construite progressivement, et cette relation très forte s'est construite progressivement. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous renvoie à nouveau à la revue Espèces, dans laquelle j'ai moi-même écrit un article sur cet indicateur. Donc voilà, tout simplement, j'ai repris cette dia hein, pour résumer un petit peu l'idée. Hein. On ne sait pas grand-chose de cette histoire évolutive. On sait simplement que l'homme exploite les abeilles, le miel, de façon intense, on en a la preuve depuis le néolithique, mais il y a plein d'éléments qui laissent entendre que c'est quelque chose de très continu pendant l'histoire d'Homo sapiens et qui est peut-être quelque chose qui est antérieur à Homo sapiens. Jusqu'à présent, c'était de la chasse au miel, du kleptoparasitisme. Hein. On vient voler, on ne donne rien en échange. Néanmoins, il y a des formes de chasse au miel qui sont des chasses au miel très particulières. Hein. Par exemple, là, vous avez à droite une photo. Alors, on ne le voit pas, mais l'homme qui est en train de le faire, il est bien protégé, son visage est protégé. Il est en train de découper un rayon de cire de l'abeille géante Apis dorsata en prenant uniquement la partie externe où il y a le miel et en préservant la partie centrale des rayons où il y a les larves, etc. C'est-à-dire que dans l'exploitation des abeilles, eh bien, l'homme, s'il veut pouvoir l'exploiter régulièrement, même en étant chasseur de miel, fait très attention quand il le peut à préserver. On a aussi des systèmes qui sont des systèmes, pas vraiment de l'apiculture, mais intermédiaires entre l'exploitation et l'apiculture. Typiquement, on va trouver ça au Vietnam, on va trouver ça dans l'Asie du Sud-Est, toujours chez ces abeilles qui sont des abeilles qui construisent leurs rayons non pas dans des cavités, mais suspendues. Eh bien, les humains vont construire des espèces de dispositifs en mettant un petit peu de la cire d'abeille pour attirer les abeilles, sachant que ces abeilles-là sont des abeilles migratrices. elles migrent sur des grandes distances et à certaines périodes de l'année, elles viennent s'installer, par exemple, dans les forêts de mangroves du Vietnam. Donc, avant que les abeilles arrivent, que font les habitants du lieu? Ils construisent ces espèces de dispositifs avec attractifs pour les abeilles. Les abeilles s'installent dessus et ils vont les exploiter, mais les exploiter encore une fois de façon à préserver, hein, de façon à faire une collecte bienveillante. Donc, on va vers quelque chose qui ressemble à l'apiculture. On trouve également des pratiques similaires en Europe, hein, au Moyen Âge, ici avec par exemple quelque chose qu'on appelle les seidlerei, ou coupeurs de miel, hein, c'est la traduction que j'ai trouvée, alors ce n'est pas un terme qu'on trouvera facilement dans un dictionnaire. C'est quelque chose qu'on va trouver dans toute l'ère germanophone, mais jusqu'aux confins de la mer Baltique, Russie, etc. Un corps de métier d'individus qui vont exploiter le miel en forêt, mais qui ne se contentent pas d'exploiter le miel en forêt, qui vont percer des cavités dans les arbres en hauteur, des cavités qui sont percées de façon à préserver l'arbre, à être très attractif pour les abeilles, et qui vont régulièrement passer, récolter le miel dans les forêts, là où ils ont construit des cavités dans les troncs d'arbres. Voyez que ces personnages sont représentés d'une façon symboliquement avec un petit bonnet vert et avec une arbalète parce qu'ils se promenaient toujours en forêt et ils avaient donc c'était une véritable guilde hein, qui avait un droit d'exploiter la forêt, d'exploiter les abeilles. Ils avaient une autorisation spéciale, il fallait être membre de la guilde et ils avaient le droit de porter une arme, une arbalète pour se défendre contre les dangers qu'il y a dans ces forêts. Les deux photos à gauche représente une tentative actuelle de perpétuer cette tradition. Hein, ça a été pris en Suisse. On organise, si vous voulez y aller, hein, des stages pour vous apprendre à creuser dans un châtaignier un trou pour faire venir des abeilles et pour exploiter du miel en respectant, en ne collectant qu'une seule partie, hein, qui soit quelque chose qui préserve la colonie. Alors, on est passé, vous voyez qu'on passe progressivement de cette chasse au miel, hein, de cette collecte de miel qui est destructif d'abord pour les abeilles, puis qui progressivement les respecte, à quelque chose voilà, où on passe dans un autre univers, qui est l'univers en quelque sorte du néolithique, on pourrait dire, hein, qui est l'univers de l'agriculture, de l'apiculture cette fois-ci, c'est-à-dire c'est l'invention de la ruche. Vous voyez qu'entre le tronc d'arbre dans lequel il y a des abeilles et la ruche tronc, du type de ce qu'on trouve dans les Cévennes, c'est simplement un morceau de l'arbre dans lequel il y avait une colonie d'abeilles qui a été coupée et qui a été ramenée. Donc, c'est quelque chose qu'ont fait les hommes. Alors, quand, voilà, on pense il y a 5, 6 000 ans, sans doute, hein, on ne sait pas exactement, mais on a commencé au lieu d'aller exploiter sur place les abeilles là où elles étaient, eh bien, à ramener les abeilles à un endroit particulier, près de la maison, dans le jardin, ou à créer les premiers petits ruchers. Et les premiers modèles ont été ces modèles de ruches troncs. Hein. Voilà. On va trouver ensuite tout un tas de modèles de ruches, comme par exemple ces Kranjik, hein, qui sont des ruches spéciales décorées, peintes, qu'on trouve en Slovénie. Un modèle de base du Kranjik, c'est tout simplement une caisse en bois, hein, donc voilà, le modèle caisse en bois est quelque chose qu'on va trouver. D'autres types de ruches beaucoup plus légères, beaucoup plus mobiles que l'on va trouver, ce sont les ruches en osier, on va trouver ça en Europe un peu partout, mais on va trouver ce type de ruches aussi en Afrique, hein, voilà, c'est quelque chose qui est très répandu. Dans une autre ère culturelle, eh bien, on va trouver l'équivalent de l'apiculture avec ce qu'on peut appeler la méliponoculture, c'est-à-dire que dans l'ère d'influence maya, par exemple, hein, eh bien, il y a eu une méliponoculture qui s'est diffusée avec, là aussi, hein, à un moment, on est passé de l'exploitation des mélipones, de ces petites abeilles, bon, qui certaines font des colonies qui peuvent atteindre quelques milliers d'individus et faire quand même quelques centaines de grammes de miel, hein, peut-être un petit peu plus, eh bien, plutôt qu'aller les exploiter tout simplement, eh bien, là aussi, dans une ère culturelle totalement différenciée, il y a eu l'invention de l'équivalent de l'apiculture, la méliponoculture, avec, vous voyez ici, un exemple de ruche en céramique maya, hein, qui date des débuts de notre ère. Hein. On s'est daté entre 100 années avant notre ère et 250-300 ans après notre ère. Hein, ça vient du Guatemala. Vous voyez à droite des ruches contemporaines qui sont utilisées dans la réserve de la biosphère de Los Petenes dans le Yucatán, au Mexique. Et vous voyez les ruches qui sont le modèle, exactement le même modèle que les Mayas, leurs ancêtres, hein, les ancêtres de ces Indiens Mayas qui vivent actuellement dans le Yucatán. Eh bien, leurs ancêtres, 2000 ans avant, utilisaient des ruches à peu près similaires pour élever des mélipones et avaient des ruchers, hein, couverts. Enfin, voilà, on trouve maintenant des ruchers comme ça, couverts, protégés des intempéries, avec plusieurs dizaines de ces petites ruches. Dans cette sphère d'influence totalement différente, hein, qui sont les Amériques, le passage entre exploiter les abeilles, les mélipones et créer des ruches a sans doute été quelque chose de très, 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 comment dire, graduel, hein, de la même façon que, par exemple, en Occident, en Europe. Parce que on sait par exemple que des Indiens d'Amazonie, comme les Indiens Kayapo, qui par parenthèse sont capables de nommer plus d'une cinquantaine d'espèces de mélipones différentes et de parler de l'architecture de leur nid, de parler du goût de leur miel, eh bien ces Indiens Kayapo, parfois, plutôt que prendre le nid d'abeille, prendre le miel qu'il y a dans le nid de l'abeille et le ramener au village, prennent carrément le nid et le ramènent près de leur maison, c'est-à-dire pour avoir ces nids de mélipone à proximité du village. Donc là aussi, hein, on a un peu ce passage de l'exploitation de l'abeille progressivement à quelque chose qui est de l'ordre de la domestication. Voilà, je vous rappelle que domestication, hein, l'étymologie domus, c'est la maison, c'est rapprocher de la maison. Alors, sur l'évolution des ruches, il y a des encyclopédies, il y a des livres, on trouve ça partout, donc je ne vais pas vous montrer une quantité de ruches énorme. Il y a eu au niveau du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, en Europe, un passage à quelque chose de plus rationnel, c'est-à-dire qu'on a voulu rationaliser l'apiculture et rationaliser les ruches, c'est-à-dire que vous avez bien compris que quand on a une ruche tronc, quand on a une ruche en osier, eh bien, l'intervention est toujours une intervention brutale qui perturbe beaucoup la colonie, qui détruit un grand nombre de cellules et qui peut être problématique. Dans le but de moins perturber la colonie et bien entendu de récolter plus de miel, d'abord a été inventé ce qu'on appelle la hausse, c'est-à-dire la possibilité de mettre des parties au-dessus des ruches en bois, mettre une partie au-dessus qui est une partie où l'apiculteur va intervenir, mais il n'intervient pas sur la partie du bas où il y a la reine, où il y a les larves, etc., où il y a le couvain. Par contre, il va intervenir que sur la partie du haut où il y a le miel qui est accumulé. Et il y a une autre invention, qui est l'invention des cadres mobiles, hein, qui sont figurés ici, dans laquelle, eh bien, on livre en quelque sorte une espèce d'habitation idéale livrée clé en main à nos abeilles, avec des cadres sur lesquels, à l'heure actuelle, on met même de la cire gaufrée avec les petits dessins hexagonaux qui indiquent à l'abeille où il faut qu'elle construise. Donc évidemment, l'apiculteur, il va ouvrir sa ruche, il va soulever le cadre, enfin, il va soulever le toit, il va enlever les cadres et voilà, ça va être quelque chose de bien plus efficace, évidemment. Les modèles sont multiples de ces ruches, il y a eu tout un tas d'expérimentations. Celle qui est la plus utilisée, je crois, au monde à l'heure actuelle, en tous les cas en France, c'est la ruche d'Adam, hein, que vous connaissez bien, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Alors, dans cette, en quelque sorte, rationalisation, hein, de l'apiculture, il y a eu non seulement une tendance à la rationalisation de la ruche, mais une tendance à la rationalisation en termes de concentration. C'est-à-dire qu'on a eu des ruches qui se sont concentrées et en même temps que l'apiculture est devenue, a pu devenir un métier, voilà. On ne se contentait pas d'avoir deux ruches, on a pu avoir plus de ruches et ça a pu devenir une activité économique réelle. Alors, les ruchers, les premières traces, les premières indications de ruchers les plus anciennes que l'on a, hein, elles datent de l'Égypte ancienne, on a des représentations. Il y en a une dans une tombe, la tombe de Passaba à Louxor notamment. Donc là, ce sont des ruches qui sont des ruches cylindrées en terre cuite, cylindriques, pardon, en terre cuite. J'ai mis une photo là d'un rucher en Égypte actuelle, hein, où on a exactement le même modèle que l'Égypte ancienne, c'est-à-dire sur des millénaires, le même type de ruches à peu près sont utilisées, peuvent être utilisées en Égypte. Les ruchers, après, vont prendre voilà, des formes différentes. C'est pareil, il y a des livres sur les ruchers mûrs, les clochers mûrs, il y a tout un tas. L'architecture a intégré le rucher, hein, c'est quelque chose que, voilà, qui a pris des formes très, très, très différentes. Je voudrais juste revenir sur, voilà, sur un travail très récent, là aussi, qui montre qu'une première apiculture quasi-industrielle, avec des guillemets, existait déjà au temps biblique, c'est-à-dire il y a 3000 ans. Hein, ce sont des découvertes archéologiques assez récentes qui ont été réalisées en Israël, sur le site archéologique de Tel Rehov, hein, dans la vallée du Jourdain. Voilà, c'est un article qui a quelques années, il est récent, enfin il est très récent, qui a été publié dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences des États-Unis. Dans cette implantation, dans cette ville qui est occupée depuis près de 9000 ans, les archéologues ont trouvé un bâtiment qui a brûlé, qui est daté d'environ 3000 ans, hein, l'incendie est daté d'environ 3000 ans, et ils ont, en fouillant, compris qu'il s'agissait d'un rucher avec des ruches. Vous voyez les restes ici de ces ruches, hein, qui sont des ruches en terre cuite, voyez avec la taille de l'archéologue. Ce rucher a été reconstitué. Vous voyez la figure à gauche représente le rucher tel qu'on peut le reconstituer à partir de ce qui a été découvert, hein, véritablement. Et à droite, une reconstitution à partir de la disposition des lieux et ce qu'on pense avoir été le rucher à l'époque. Il faut penser que ce rucher était un rucher urbain. Il était complètement, c'était dans un bâtiment qui était complètement à l'intérieur d'une ville, que les ruches en question ont été reconstituées. On trouve ce type de ruche, elle ressemble beaucoup aux petites ruches en terre cuite que je vous ai montrées, hein, égyptiennes. On trouve ce type de ruche dans tout le Moyen-Orient. Les archéologues ont trouvé une centaine de ces petites ruches qui peuvent contenir entre 10 et 15 000 ouvrières et ils ont estimé que ça correspondait quand même à une production annuelle de 500 kg de miel par an et 50 à 60 kg de cire par an, ce qui n'est pas négligeable, hein. On est il y a 3000 ans, hein, 1000 ans avant notre ère. Pourquoi une telle accumulation? Ben voilà, une professionnalisation, et les archéologues ont mis en rapport aussi la présence de ce rucher avec une autre activité économique des lieux, à savoir que pas loin de là, il y avait des mines qui étaient des mines de cuivre, et une des hypothèses, c'est que la cire pouvait être utilisée pour, dans la technique de du moulage à la cire perdue, hein, vous savez, on fabrique une sculpture en bronze, en tout d'abord faisant une figurine par exemple, vous faites une figurine en cire, et une fois que vous avez fait cette figurine en cire, très 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 précise, vous l'englobez par exemple d'argile, vous faites cuire, et ensuite vous avez la cire qui a fondu et l'argile qui a pris la forme de la statue que vous aviez fait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à verser à l'intérieur de ce moule du bronze, et vous cassez ensuite votre moule, et vous obtenez, par cette technique à la cire perdue, vous obtenez une statue en bronze. Voilà, donc c'était une technique utilisée, apparemment utilisée sur cette région où il y avait aussi des mines de cuivre, exploitation de cuivre. Dans cette découverte archéologique, les débris qui correspondent, je vous dis, à un incendie de ce bâtiment ont permis de trouver des parties de ruches qui ont été calcinées avec du couvain, des adultes d'abeilles, mâles, femelles, larves, etc. Vous voyez ici les photos en microscopie électronique, c'est-à-dire qu'on a pu retrouver des abeilles assez bien conservées suite à cet incendie, prises dans une espèce d'amalgame de cire fondue, etc. La surprise, c'est comme ils sont parfaitement bien conservés, les entomologistes ont pu voir que les abeilles en question correspondaient à une race qui n'est pas la race que l'on trouve dans la région. Hein. La race que l'on trouve dans la région, dans cette région d'Israël, est une race de l'abeille Apis mellifera, qui est Apis mellifera syriaca. Or, Apis mellifera syriaca, la race que l'on trouve dans cette région du monde, est une race assez peu productive, assez agressive et qui a comme particularité de quitter très rapidement la ruche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la garder longtemps. En fait, les abeilles qui étaient utilisées étaient des abeilles d'une autre race, autre sous-espèce d'Apis mellifera, Apis mellifera anatoliaca, d'Anatolie. Donc, l'hypothèse, alors il y a deux hypothèses. Soit à l'époque, l'abeille d'Anatolie était présente dans ces lieux, soit ils sont allés la chercher. Dans l'article, ils expliquent pourquoi ils privilégient la deuxième hypothèse, à savoir qu'il semblerait bien qu'il y avait un commerce d'essaims et qu'ils allaient chercher des essaims d'abeille, qui est l'abeille anatolienne, parce qu'elle est plus facile à élever, parce qu'elle est plus productive. Et donc, vous voyez, ça signifie qu'il y a 3000 ans, il y avait une activité économique importante d'apiculture, avec une production de miel importante, une production de cire importante, un rucher qui était un rucher urbain, un rucher qui était urbain qui était intriqué dans une ville, et un rucher urbain qui utilisait une race d'abeilles qui n'était pas une race d'abeilles locale. Autre petit point de détail sur les techniques apicoles contemporaines, la transhumance. Vous avez tous vu que les apiculteurs, ils promènent leurs ruches, c'est-à-dire que selon les saisons, ils aiment bien mettre les ruches à des différents endroits. À un endroit, on va mettre les ruches près de la forêt pour faire du miel de sapin. Quand la production est passée, eh bien, on va mettre les ruches à un autre endroit pour avoir du miel de lavande, etc., etc. Bien, ces techniques de transhumance est quelque chose qui est fait à grande échelle, hein, qui était fait à petite échelle et qui maintenant est fait avec des camions semi-remorques. Hein, voilà. Cette technique de transhumance est quelque chose d'assez ancien. Il y a mention de transhumance dans des vieux textes égyptiens, hein, qui montrent que apparemment les Égyptiens pouvaient transporter des ruches sur des bateaux sur le Nil. Il y a des textes anciens, hein, qui datent de l'Antiquité qui montrent que les anciens Romains transportaient aussi des ruches sur des chevaux, sur des ânes, sur des distances assez importantes. Et là, je voudrais vous parler aussi d'un article, hein, qui est, à mon sens, assez intéressant. Également, un article récent, il date de 2017, qui a été publié suite à des travaux d'archéologues italiens. Alors, le scénario fait penser à ce que j'ai raconté tout à l'heure à propos d'un incendie. Ici, c'est la découverte d'un bâtiment qui date des Étrusques, donc environ 500-600 ans avant notre ère. Un bâtiment incendié. Ce bâtiment n'était pas un rucher, c'était une espèce d'appentis dans lequel apparemment il y avait des ruches qui étaient stockées et un peu de miel qui était stocké. Et là aussi, on a retrouvé, donc vous voyez ici, on a retrouvé des cellules d'abeilles un peu calcinées. Et dans ces cellules d'abeilles calcinées, on a trouvé des restes d'abeilles, on a trouvé des restes de pollen qui correspondaient au pollen récolté par les abeilles. Et ce qui a été intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse palynologique, palynique, c'est-à-dire l'analyse des pollens. Et en faisant une analyse des pollens, ils se sont rendus compte que les pollens ne correspondaient pas vraiment à la flore que l'on pensait être la flore de la région. Du moins, elles correspondaient à un profil de pollen très particulier, avec une surreprésentation de plantes aquatiques. Et notamment, on se rend compte que les abeilles qui ont produit le miel qui a été carbonisé là et qui ont produit le pollen qui a été stocké voilà, dans ces éléments carbonisés, eh bien, les abeilles en question pollinisaient notamment en abondance une petite plante aquatique, hein, qui ressemble à des nymphéas, un Nymphoides peltata, un petit nénuphar, et aussi du vitis. Vitis, c'est de la vigne, apparemment de la vigne sauvage qui pousse de façon en liane et que l'on trouve aussi sur le bord des rivières. En fait, leur hypothèse, c'est que le miel qui a été produit était un miel qui a été produit par des abeilles qui étaient sur des bateaux qui se déplaçaient le long d'une rivière qui est un affluent du Pô. Alors, cette découverte a été faite en Italie du Nord, donc à Forcelles, auprès de Mantova, Mantoue, hein, qui est sur. Or, Forcelles, c'était un petit port au temps des Étrusques sur un petit affluent du Pô, hein, l'affluent qui s'appelle le Mincio. Et en fait, si on regarde des écrits un peu plus récents, hein, que l'on doit à Pline l'Ancien, hein, qui donc nous rapproche de. Il nous rapproche d'environ 500 ans, je crois, du temps présent. Eh bien, Pline écrit la chose suivante dans l'Histoire naturelle à propos de la ville d'Ostilia. Il est un bourg appelé Ostilia, baigné par le Pô. Les habitants, quand la nourriture manque dans les environs, mettent les ruches sur des bateaux et chaque nuit, ils leur font remonter un espace de 5000 pas. Au jour, les abeilles sortent et vont butiner. Elles reviennent au bateau et ainsi, on les change de lieu jusqu'à ce que, le poids faisant enfoncer davantage les bateaux, on comprend que les ruches sont pleines. On revient alors et on recueille le miel. La découverte archéologique, hein, laisse entendre que, eh bien, avant Pline l'Ancien, hein, quelques centaines d'années avant, chez les Étrusques, tout près de là, déjà, eh bien, a priori, il y avait déjà cette technique, hein, de promener des ruches sur des bateaux pour leur faire profiter, eh bien, des floraisons au bord de rivière. D'autres relations existent avec les abeilles. Je vais y venir très rapidement. Hein. L'abeille a également, été utilisée par l'homme pour ses capacités de défense, qui ont pu être détournées à l'avantage de l'homme, comme auxiliaire de défense des cultures. Il y a une chercheuse anglaise qui a montré que les éléphants, qui sont des animaux qui ont une peur bleue de l'abeille, eh bien, ont aussi une peur bleue des sons émis par les abeilles, et qu'en émettant des sons d'abeilles, ces éléphants se sauvent. Eh bien, elle a proposé le programme suivant, hein, qui est un programme qui est soutenu par l'ONG Save the Elephants, qui consiste à faire des barrières en ruches, c'est-à-dire autour des villages, autour des cultures, on met des ruches. Ça fait peur aux éléphants et par ailleurs, ça permet de produire du miel, donc un double avantage. Ceci est utilisé de plus en plus en Afrique. Hein. Ça a commencé au Kenya, mais ça a été testé dans d'autres de pays. Récemment, ça a été utilisé également à Ceylan, hein, avec l'éléphant d'Asie qui a même peur des abeilles. Et on a utilisé également cette technique tout récemment pour protéger les arbres. Il y a certains arbres qui sont des arbres patrimoniaux, des très beaux arbres qui sont en voie de disparition dans la savane, que les éléphants abîment. On sait que les éléphants aiment bien casser les arbres et en mettant des ruches de cette façon, on les protège. Autre type de relation, et je terminerai là-dessus avec les abeilles, évidemment, l'abeille est un excellent pollinisateur, hein, je l'ai dit au début, c'est quelque chose qui caractérise toutes les abeilles. Mais l'abeille, au départ, n'a pas été utilisée comme pollinisateur. Encore une fois, elle a été utilisée surtout pour le miel, pour la cire, etc. Et c'est dans un deuxième temps qu'on l'a utilisée éventuellement pour la pollinisation, pour faciliter la pollinisation. Mais à l'heure actuelle, au niveau mondial, au niveau économique, hein, l'abeille comme pollinisateur, eh bien, l'apport économique de l'abeille comme pollinisateur est bien supérieur à l'apport économique de l'abeille comme fournisseur de miel. Donc l'abeille est utilisée à grande échelle, notamment en Amérique du Nord, hein, aux États-Unis d'Amérique, comme pollinisatrice des plantes cultivées. Pour la petite histoire, on a commencé au départ, les apiculteurs, ils devaient payer pour mettre leur ruche dans les champs. Ensuite, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que c'est les arboriculteurs qui ont payé les apiculteurs pour qu'ils amènent les abeilles. Et maintenant, on en est au point où les apiculteurs ne veulent même plus amener leurs abeilles parce qu'il y a tellement de pesticides, et c'est comme ça que je voudrais terminer. Il y a tellement de pesticides qu'il y a une mortalité terrible des abeilles dans ces plantations d'amandiers de Californie, hein, où il y a sur des milliers, des milliers, des milliers d'hectares, des amandiers, rien d'autre que des amandiers, utilisation de pesticides, et les abeilles, voilà, ont une mortalité énorme. Donc, nos relations à l'abeille, vous l'avez vu, ont évolué. Hein, une espèce de relation qui est une relation de prédation, qui a évolué progressivement vers une espèce de relation symbiotique. Cette relation voilà, avec l'apiculture, qui se fait au bénéfice des deux, hein, puisque à partir du moment où l'homme voilà, élève des abeilles, il favorise la propagation de l'abeille. Hein, il n'y avait pas d'abeilles, l'abeille mellifère n'existait pas en Australie, elle n'existait pas en Amérique, hein, c'est l'homme qui l'a introduit. Donc l'aire de répartition de l'abeille mellifère s'est étendue. Donc l'abeille, d'une certaine façon, se porte bien, hein, puisque son aire de répartition est immense, mais en même temps, vous savez que les abeilles souffrent. que les abeilles souffrent d'un grand nombre de choses, qu'elles souffrent, ce déclin est lié en grande partie à beaucoup de choses, hein, réchauffement climatique, appauvrissement génétique, pratiques agricoles et notamment l'usage intempestif des pesticides, hein, c'est ce qui est bien pointé ici, notamment avec toute une classe de pesticides qu'on appelle les néonicotinoïdes, qui font des dégâts énormes. Alors, voilà, on est dans l'Anthropocène, on est rentré dans une autre relation avec les abeilles. Cette relation, elle est toujours, on la souhaite toujours symbiotique, on la souhaite toujours positive, mais on voit à quel point indirectement on a des effets délétères sur les abeilles. Alors, les solutions, voilà, on peut travailler un petit peu là-dessus, hein, sur ces problèmes, réchauffement climatique, utilisation des pesticides, enfin, les vrais problèmes, on peut aller à la source des problèmes, ou dans certains cerveaux, il y a d'autres idées qui naissent, hein, apparemment, puisque les abeilles disparaissent, on va les remplacer. Donc pourquoi pas, c'est une hypothèse. Moi, voilà, je voulais terminer là-dessus, hein, quelles sont les solutions que l'on a? Est-ce que les solutions, c'est une agriculture qui est une agriculture différente, qui respecte plus l'abeille, hein, l'abeille étant en quelque sorte une sentinelle, l'abeille nous avertit, hein, ça fait des décennies que l'abeille nous avertit sur ce qui est en train de se passer. On parle maintenant d'insectaguédon, d'apocalypse des insectes, etc. Donc on se rend compte qu'il y a un effondrement des populations d'insectes. Bon, on peut discuter des heures là-dessus, mais il se passe quelque chose, effectivement. Il y a 30 ans, on le disait sur l'abeille. Voilà, l'abeille était annonciatrice de ce qui est en train de se passer. Tous ces pesticides, c'est des pesticides que l'on mange, ça a des effets sur nous, sur notre santé. On le sait. Donc les solutions, c'est quoi? C'est quoi? C'est revenir sur ces modèles agricoles. Ou bien, eh bien, c'est business as usual. Et puis, dans ce cas-là, on va favoriser d'autres techniques. Voilà, c'est comme ça qu'il y en a certains qui commencent à réfléchir à des micro-robots pollinisateurs. Alors, pourquoi pas, hein? Moi, voilà, vous avez avec cette petite bande dessinée, vous comprendrez qu'est-ce que je choisis. On peut effectivement choisir les robots pollinisateurs, mais on voit qu'on rentre dans une espèce de cercle vicieux et qu'à partir du moment où on met le doigt là-dedans, eh bien, il n'y aura plus d'abeilles et il n'y aura plus de nature. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'indicateur, et notamment, il y a une légende qui circule partout, c'est le ratel, hein, le fait que l'oiseau indicateur attire le ratel. Le ratel, c'est cette espèce de, j'ai mis au début, hein, cette espèce de blaireau du sud de l'Afrique, qui effectivement est un prédateur d'abeilles et de ruches. Et effectivement, le ratel peut arriver lorsqu'il y a un indicateur, mais aucune étude scientifique à l'heure actuelle a démontré que l'indicateur faisait volontairement, entre guillemets, du moins faisait venir le ratel. Que le ratel, de façon opportuniste, vienne lorsqu'un indicateur est dans le secteur, voilà, ça ne fait aucun doute à mon avis. Enfin, voilà, c'est fort, fort probable. Mais la relation qui existe entre l'indicateur et Homo sapiens est véritablement une relation très, très, très particulière, une forme de relation symbiotique comme il y en a peu, voire même à la connaissance, je ne connais pas d'équivalent entre l'homme et une espèce sauvage. Et encore une fois, hein, j'attends beaucoup des travaux de Claire Spottiswoode parce qu'elle est toujours sur ce sujet. J'espère qu'elle va éclaircir un petit peu ça. Malheureusement, il devait y avoir des centaines et des centaines d'ethnies africaines qui devaient avoir ces usages avec l'indicateur. Les quelques ethnies qui continuent de le faire, comme les Yao voilà, au Mozambique ou les Hadza en Tanzanie, eh bien, le font de moins en moins parce que, évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu folklorique. Enfin, ça apporte de moins en moins au niveau économique, hein, voilà. C'est à souhaiter qu'au moins ces ethnies-là conservent ces traditions-là, ne serait-ce que voilà, par rapport à le tourisme, voilà, et qu'on puisse le maintenir. Il serait intéressant de savoir, de faire des études sur les autres ethnies. Il y en a d'autres, hein, qui ont des relations avec l'indicateur. Mais sinon, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'autres interactions entre l'indicateur et d'autres espèces de cette façon-là. L'indicateur est capable effectivement d'attirer Homo sapiens, et sans doute il attirait les ancêtres d'Homo sapiens depuis longtemps.
Vous avez cité nombreux prédateurs, mais est-ce qu'aujourd'hui le frelon asiatique, c'est une grande menace pour notre population d'abeilles ici?
Alors, je ne suis pas un spécialiste du frelon asiatique. Il y a un bouquin qui vient de sortir tout récemment sur le frelon asiatique par un des deux ou trois spécialistes français. Éric Darouzet, voilà, qui fait. Je ne l'ai pas lu, je vais le recevoir dans les jours qui viennent. Donc, il est tout récent. Pour répondre à la question, ça rajoute, quoi. Voilà, il y a le varroa, il y a. Il y a tous les parasites possibles, nosema, etc. Donc il y a des parasites, des ectoparasites comme la varroa. Il y a des parasites internes comme les nosema. Il y a la variabilité génétique qui est plus basse. Il y a les pesticides. Voilà, il y a plein de choses. Si on rajoute en plus le frelon asiatique, effectivement, voilà, ça fait un élément complémentaire. Le frelon asiatique à lui tout seul ne suffirait pas à venir à bout des abeilles. Hein. C'est un problème, mais ce n'est pas, à mon sens, le problème majeur. Sauf que localement, effectivement, on peut voir des choses assez impressionnantes. Hein. Ouais. Non, voilà, localement. Je veux bien le croire. Hein. Mais ça se rajoute au reste, quoi. Ça se rajoute au reste.
Hein. À une telle cadence.
Oui, bien sûr. S'il y a un nid de frelons à proximité des ruches, voilà, ils viennent, quoi. Ils font vraiment des allers-retours. C'est redoutablement efficace. Hein. Ce frelon était spécialisé sur des abeilles asiatiques. Il allait les chercher. Et là, sur l'abeille Mellifera européenne, qui n'est pas prémunie contre ça, il est redoutable.
Il ne sait pas se défendre.
Non.
Et en plus, il y a un mimétisme entre le notre frelon européen qui est en train de se faire avec le frelon asiatique. Dans la mesure où notre frelon européen n'était pas vraiment délégué dans les ruches.
Non.
Mais actuellement, on les voit avec les autres.
Il y a un mimétisme qui vient.
Et bien, il manque aussi des singes. Oui.
Lui, il voit qu'il ne va plus avoir à manger, donc c'est pareil.
Oui.
Là, moi, je voudrais vous poser une question concernant les abeilles méliponnes.
Oui.
Donc, il se dit que les abeilles méliponnes étaient les abeilles originelles situées de l'autre côté de l'océan Atlantique.
Oui.
Et on sait aujourd'hui qu'il y a les abeilles Apis mellifera qui sont donc aussi
oui.
de l'autre côté. Quand est-ce que vous datez cette période justement où les abeilles Apis mellifera ont été amenées de l'autre côté de l'océan?
Alors, dater précisément, on ne sait pas. À grande échelle, 18e siècle déjà. Hein. Alors, ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Amérique du Sud, c'est un peu plus tard. Mais il est clair que ça a eu un effet énorme sur la méliponiculture. Hein, ils ne sont pas bêtes. Hein, ils ont tout de suite compris que l'abeille mellifère était beaucoup plus efficace. Donc,
mais avec des inconvénients quand même.
Avec des inconvénients, c'est que ça pique. Notamment, ça pique, mais ça produit beaucoup plus. Voilà. Vous y êtes allé, hein. Vous y êtes allé les voir, non?
Oui,
là-bas,
oui.
Oui, semblait.
Alors, j'aurais voulu poser une deuxième question qui est tout à fait différente, si vous voulez. Vous parliez des insectes sociaux et de leur système de communication. Donc, évidemment, nous connaissons donc la fameuse danse des abeilles. Mais vous aviez l'air de sous-entendre que, y compris les bourdons, y compris peut-être les guêpes, avait un système de communication concernant des ressources, des nourritures.
Alors, chez les bourdons, on n'a pas de mécanisme de recrutement. Bon, ça, c'est le mécanisme générique, c'est un mécanisme de recrutement. C'est-à-dire, ce qui consiste à aller chercher un congénère de sa société pour lui indiquer une source de nourriture, hein, c'est ce qu'on appelle un recrutement alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose que les fourmis font très, très bien. Hein. Elles recrutent par des pistes, par des moyens comme ça. Les hyménoptères volants, c'est plus compliqué. Donc, chez certaines abeilles, notamment des mélipones de sous-bois, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à des pistes. C'est-à-dire, c'est des espèces de pistes discontinues, chimiques. C'est-à-dire que l'abeille marque dans le sous-bois, des endroits différents, une espèce de piste chimique. Chez les apis, les grandes abeilles, il y a des danses. Chez les Bourdons, il n'y a rien de la sorte, mais ils fonctionnent, ils n'ont pas besoin de ça, ils s'en débrouillent fort bien. Voilà. Chez les guêpes, il n'y a pas de démonstration à l'heure actuelle d'un véritable recrutement. Il se passe des choses, il y a des phénomènes d'amplification, mais il n'y a pas de recrutement comme chez les abeilles. Voilà. Mais oui, cette danse des abeilles, c'est quelque chose que l'on trouve que chez le genre Apis. Et encore une fois, c'est quelque chose dont on pense pour Apis mellifera. Hein. On pense que ça s'est d'abord mis en place pour la sélection du site de nidification.
Oui, c'est ce que vous
expliquez. Mmh. Et ça répond à une question de la surprise. Quand on connaît bien les insectes sociaux, on est étonné que les abeilles mettent au point un système aussi compliqué pour quelque chose qui est si facile à faire quand on est un insecte social. C'est-à-dire que les insectes sociaux ont des mécanismes de recrutement beaucoup plus simples que la danse et qui marchent bien. Hein. Et sans doute que même l'abeille mellifère se sert d'odeurs qui sont véhiculées par l'air pour trouver, voilà, ça se surajoute à la danse. Hein. Pourquoi un mécanisme aussi compliqué pour aller chercher de la nourriture? Eh bien, une des réponses, c'est peut-être que, en fait, ce mécanisme compliqué, il est par contre nécessaire pour ce qui est d'un site de nidification, parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un mécanisme dans lequel un nombre relativement important d'abeilles aillent voir, entre guillemets, hein, donnent leur avis, et qu'ensuite il y a un processus de décision par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs individus qui vont voir des sites différents. Ces individus vont recruter pour ces sites différents, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs sites en compétition, et à un certain moment, il va y avoir une espèce de quorum atteint avec un certain nombre d'individus qui codent pour un site. Et à ce moment-là, à partir du moment où on atteint ce quorum, eh bien, l'essaim, en quelque sorte, décide. C'est-à-dire qu'une décision collective qui est basée à la fois sur un mode de communication qui est la danse, avec des prises de décision individuelles, mais il y a une sommation des prises de décision individuelles qui est résolue par le fait qu'il y a un quorum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un nombre, par exemple, une quinzaine d'abeilles qui dansent en même temps, qui sont en même temps et qui codent en même temps pour le même lieu, bien à ce moment-là, l'essaim, entre guillemets, va décider de se diriger collectivement vers le nouveau site.
Alors on pourrait presque parler de dépouillement électoral.
Ça fait penser un petit peu à une décision collective, ça fait penser à un système de ce type. Pour filer la métaphore, il y a même des votes négatifs, parce que quand on a deux abeilles qui, à la surface de l'essaim, dansent pour des sites différents, il y en a une qui peut arrêter sa danse pour donner des coups de tête à l'autre, pour l'empêcher de recruter pour l'autre site de nidification. Voilà. Mais s'il y avait seulement des abeilles qui vont sur l'essaim et qui codent pour la position du site de nidification, on rentrerait sur un système sans fin. Il y a en plus de cela ce système de quorum qui fait que quand on atteint un certain nombre d'individus, une douzaine, une quinzaine, qui codent pour un endroit, eh bien, à ce moment-là, alors ça se traduit de la façon suivante, quand une douzaine, une dizaine, une douzaine de ces individus se retrouvent en même temps à cet endroit-là, hein, eh bien, à ce moment-là, ils vont rentrer au niveau de l'essaim, et là, ils vont bousculer tout le monde. D'une certaine façon, bon, ça suffit comme ça. Maintenant, on l'a trouvé l'endroit, on y va, hein, pour dire les choses de façon très vague.
Est-ce qu'une solution, ce serait d'essayer de mettre des ruches un peu partout en ville, où on dit que les oiseaux reviennent parce qu'il y a moins de pesticides sur les toits des immeubles?
Oui, enfin, les surfaces des villes sont assez limitées. On peut le faire, ça se fait, mais ce n'est pas ça qui va... voilà, c'est... On peut mettre des ruches en ville. Encore une fois, on le fait. Hein. L'apiculture urbaine, ça existe. Mais voilà, pour produire du... La France, si on prend juste à l'échelle française, on est en sous-production de miel par rapport à la consommation. On doit produire un tiers...
Un dixième.
Un dixième maintenant. Ouais, on est tombé à un dixième. C'est une catastrophe. Donc, oui, si on prend cette année, effectivement. Donc on est tombé très très bas, et je ne pense pas que ce sont... c'est nos campagnes qui devraient... nos forêts, nos campagnes devraient pouvoir assurer ça, quoi. Voilà, devraient assurer une apiculture.
Pour la dernière question, j'ai juste une question. Vous avez cité pas mal d'exemples dans l'histoire, et je me demandais si le type d'usage des abeilles était vraiment concentré pour le miel,
ou alors si l'homme avait conscience du rôle de pollinisateur, justement, et qu'il utilisait pour accroître sa production pour des cultures spécifiques.
C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est forcément quand exactement, on n'en sait rien, mais la découverte de la fécondation des plantes de façon scientifique, c'est quelque chose qu'on date du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc oui, c'est très récent. Par contre, la pollinisation humaine des palmiers, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs milliers d'années. Donc de façon pragmatique, on savait féconder artificiellement des plantes. Que les abeilles aient ce rôle, non, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, hein, beaucoup plus récent. Par contre, oui, effectivement, depuis un ou deux siècles, c'est connu. Et donc, voilà, pour favoriser certaines plantes, on va mettre dans son jardin des ruches. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies, et un ou deux siècles peut-être.
Je pense que si, c'était peut-être connu, mais on n'en avait pas conscience de la même manière, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'abeilles sauvages qui...
Par ailleurs.
Les réserves pour faire des abeilles domestiques, et puis la nature était prolifique en tout, donc on n'avait pas, dans la mesure où on n'avait pas le problème de manque, on se posait pas vraiment la question.
Ça roulait, hein.
Ça se faisait naturellement.
Et ce que l'on dit là à propos de l'abeille, sa disparition, elle est valide pour les abeilles sauvages. Là-dessus, on ne sait pas grand-chose, mais elles subissent exactement la même chose.
Tous les insectes,
mais voilà, en parlant de pollinisateurs, les abeilles sauvages sont souvent plus efficaces que l'abeille domestique mellifère, tout simplement parce que souvent elles sont spécialisées. Donc en étant plus spécialisées, ce sont des pollinisatrices, souvent sur les fleurs sur lesquelles elles sont pollinisées, elles sont plus efficaces pour certaines variétés. Alors que l'abeille mellifère, elle est extraordinaire parce qu'elle elle pollinise un spectre immense de fleurs. Mais n'étant pas spécialisée, elle est aussi un petit peu moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'elle soit inefficace, hein, mais elle sera moins sur certaines fleurs que certaines petites abeilles solitaires, très discrètes, qui émergent à une période de l'année, qui vont vivre quelques jours, faire leur pollinisation de leur fleur qui fleurit quelques jours dans l'année et vont disparaître. Voilà.
Bien, nous, pour faire très rapidement conclure avec le lien avec le séminaire, en fait, ce que nous apporte cette séance, c'est en partie que, comme beaucoup de problèmes liés à l'environnement, on a des connaissances scientifiques très avancées, mais il reste les sciences humaines à mobiliser pour comprendre pourquoi on ne prend pas les mesures nécessaires au moment où il faut, en termes de relations sociales et de notre relation à l'animal. Voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors je voudrais présenter la prochaine séance sera tenue par Guillaume Stéphache, qui nous parlera, qui est psychologue, et qui nous parlera du rôle de l'affect de la production vocale chimpanzé. Voilà. Donc on restera aussi avec des sciences bien établies. Merci beaucoup.
Alors, merci.